Les voix de l'écho.
Salutations chers auditeurs, auditrices de Radio G, bienvenue dans l'émission Les Voix de l'Écho. Je suis Yves Maguin et pendant 50 minutes, nous allons aborder les thèmes de l'entrepreneuriat, de l'écologie, puis du développement économique local et éco-responsable. Cette émission est ponctuée de plusieurs temps forts avec un invité, une ou plusieurs chroniques en fonction des semaines, ainsi qu'une pause musicale choisie par l'invité. Alors, ouvrez grand vos oreilles, c'est parti. Et oui, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio G à l'écoute de l'émission Les Voix de l'Écho. Dans l'émission du jour, nous allons parler d'horticulture et d'innovation, mais également de la croissance d'une jeune pousse qui s'est lancée dans l'aventure entrepreneuriale. J'ai eu la chance de la coacher avec son équipe lors d'un programme qui s'appelle Les Entrepreneurs. On en reparlera durant l'émission. Alors, en studio avec moi aujourd'hui, nous avons le chef Hervé Chéneau. Bonjour chef, de quoi allez-vous nous parler ?
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et bien aujourd'hui, tout simplement, comment savoir si le poisson est frais ?
Intéressant. Hervé, on vous retrouve à votre chronique en deuxième partie d'émission. Et également aujourd'hui, la jeune Manon Finambu qui est en stage en fin d'année dans mon entreprise et qui va se prêter au jeu de la chronique aujourd'hui. Bonjour Manon, de quoi allez-vous nous parler ?
Bonjour, je vais vous parler de musique et surtout de la musique angevine.
Ah, très intéressant, on va pouvoir peut-être bouger un petit peu dans le studio. En tout cas, j'ai hâte de découvrir votre chronique d'ici une quinzaine de minutes à peu près. En tout cas, Hervé et Manon, je rappelle que vous pouvez intervenir à tout moment dans l'émission pour poser une question à notre invité du jour.
Les Voix de l'Écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Comme pour les humains, la musique aiderait à soigner et à aider à la croissance des plantes. Cette musique que vous entendez en est un parfait exemple. Alors, ce n'est pas vraiment le sujet du jour, car avec son entreprise, mon invité propose un ensemble de solutions qui visent à réduire les déchets plastiques de la filière horticole, mais également pour aider justement la croissance des plantes, d'où mon clin d'œil à l'extrait musical que je viens de vous passer. Je reçois aujourd'hui Tiphaine Morillon, actuellement étudiante ingénieure en horticulture et paysage, fondatrice donc du projet d'entreprise Simplante. Bonjour Tiphaine et bienvenue dans le studio de Radio G.
Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir.
Pensez bien à parler proche du micro. Tiphaine, est-ce que, ma première question va être simple, est-ce que vous êtes adepte de la musique pour les plantes ?
Eh bien écoute, oui, parce qu'apparemment il y a des effets bénéfiques pour les plantes. La musique a des effets bénéfiques, donc oui.
Ouais, alors j'ai vu qu'il y avait une étude justement par rapport à ça. Il y a des études expérimentales qui sont faites en laboratoire notamment pour ce bienfait au niveau des plantes, comme quoi tous les êtres vivants aiment bien la musique. Alors, Tiphaine, comment vous est venue l'idée d'entreprendre et de créer justement Simplante ?
Eh bien écoute, j'étais en stage de troisième année d'ingénierie horticole et je devais faire des sondages en jardinerie afin de comprendre la consommation des clients en jardinerie. Et il n'y avait pas grand monde à cette époque de l'année, on était en plein mois de juillet. Et donc j'ai un petit peu discuté avec ces personnes-là qui m'ont expliqué qu'elles rachetaient souvent leurs plantes, notamment pour le potager, vu qu'à chaque fois elles venaient à mourir au cours de l'été. Et puis, il y avait une certaine question qui était en lien avec le conditionnement. Et au fur et à mesure des échanges, je me suis rendu compte que les conditionnements étaient souvent jetés par la suite quand on a planté ses tomates, ses fraises dans son potager. Et donc, finalement, l'idée m'est venue de vouloir associer le conditionnement et aider le jardinier à garder ses plantes en bonne santé le temps de les consommer, de les produire.
D'accord. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est l'innovation que vous avez par rapport à Simplante et nous expliquer un peu plus en détail ce qu'est donc Simplante?
Donc Simplante, comme vous avez dit, c'est un ensemble de solutions qui permet de réduire les déchets horticoles produits pour les clients. Donc il faut savoir qu'il y a 20 000 tonnes de déchets qui sont produits en France rien qu'en horticulture, ce qui est un gros chiffre pour la filière et un énorme problème. Donc l'idée, c'était de commencer par l'étiquetage et donc de remplacer cette étiquette qui informe le client en jardinerie de comment planter, de comment placer sa plante et aussi notamment l'arrosage. Et donc ça serait de créer cette même étiquette mais qui soit biodégradable et qui va diffuser de l'engrais en la plantant avec le végétal. Et donc l'engrais va avoir un effet sur le long terme pour aider à mieux produire notamment et à faire fleurir plus rapidement ces plantes.
Alors votre projet me fait penser un peu aux cartes ensemencées où on a des graines. C'est quoi la différence vraiment qui existe entre les deux produits ?
Alors le process va être complètement différent. Pour le coup, là, l'innovation vient du fait qu'il faut réussir à intégrer une matière organique très fragile, parce qu'il faut savoir que l'engrais est très fragile avec l'humidité et la chaleur. Et donc là, il faut trouver un process technique qui fait qu'on va réussir à intégrer cet engrais dans un support qui est à la base marketing, qui va subir des conditions très compliquées, avec beaucoup d'humidité, beaucoup de chaleur, comme en jardinerie par exemple. Pour les graines, en fait, ça va être un mélange. On va faire du papier et on va intégrer des graines qui sont dormantes. Et en fait, en les plantant, ça va les réveiller et elles vont pousser.
D'accord. Et donc tout ça, c'est bio, hein, bien évidemment.
Oui.
C'est pas d'intrants chimiques dans ces étiquettes. Alors pour les personnes qui nous écoutent, et comme je l'ai dit en introduction, j'ai eu la chance d'être le coach de Tiffen et de son équipe lors d'un programme qui s'appelle Les Anthropes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que ce programme ?
Alors, Les Anthropes, c'est un programme entrepreneurial qui permet aux étudiants, là pour le coup de la ville d'Angers, de découvrir l'entrepreneuriat au travers d'un projet qui est proposé par un porteur de projet. Donc, ce projet-là va être proposé par l'étudiant et puis à partir de là, on va créer un groupe avec des porteurs de compétences. Et pendant 5 mois, on va porter le projet ensemble. Donc, on va partir avec des outils de base pour petit à petit produire un business plan qui est un peu le Saint Graal en entrepreneuriat, pour présenter son projet à des banquiers, des financeurs. Et voilà, on va faire des clients types, on va voir comment va marcher le business model, donc comment on va créer notre activité et on va aller jusqu'au plan de financement. Et puis, le but à la fin, c'est de présenter le projet à l'oral devant un jury et de décrocher des prix.
Des prix. Et alors, Simplante a eu un prix ?
Oui, il a eu le prix de l'innovation.
Bravo. Excellent, très très beau. Et alors, qu'est-ce que ça vous a apporté vraiment par rapport à votre projet, ce programme Les Anthropes, mis à part la création du business plan ?
Eh bien, déjà, le projet, il faut savoir qu'il a commencé en septembre, fin août-septembre. Enfin, l'idée est venue à ce moment-là et Les Anthropes a été un réel tremplin. Et surtout, le fait d'avoir d'autres personnes avec une vision différente et aussi une vision qui ne soit pas en lien avec l'horticulture a permis en fait de développer d'autres aspects du projet. Et ça a permis aussi de travailler en groupe, de coacher des gens, de travailler ensemble. Et pour le coup, c'est une vraie aventure qui a permis d'ouvrir vers d'autres concours. J'ai notamment fait un challenge qui s'appelle le challenge Précop que Les Anthropes m'ont proposé. Et là aussi, ça a été une grande aventure. Ça permet de créer un réseau et de s'ouvrir des portes, en fait.
Est-ce qu'on peut citer les personnes qui étaient avec vous dans votre équipe ?
Oui, bien sûr. Donc, il y a eu Mathieu Manguin, qui est à l'ESA. Et après, c'était des personnes de l'ESEB, donc Gwenda Claudel, Vincent Voisin et Nirvana Werdego, qui sont tous les trois à l'ESEB en informatique et en protection de l'environnement.
D'accord, et vous aviez donc tous, bien évidemment, une tâche spécifique dans Les Anthropes et dans l'organisation du projet.
C'est ça. Mathieu était plus dans le management, dans la partie commerciale. J'étais plus dans la partie technique. Et après, Nirvana et Vincent étaient sur la partie informatique, puisqu'il y a une application qui sera en lien avec cette étiquette. Et puis, Gwendal était un peu multitâche, il allait un peu partout, mais surtout il a été un vrai accompagnant pour moi puisqu'il m'a accompagnée, il m'a suivie jusqu'au bout et encore aujourd'hui on a contact pour avancer ensemble.
Ouais, c'est top. Alors il faut aussi préciser hein, que les anthropes, hein, donc, chaque équipe est chapeautée si je puis dire, hein, donc par un coach et un parrain. Le parrain provient donc, est un lauréat du réseau Entreprendre. Donc par exemple vous, le parrain c'était
C'était Mathieu.
Oui.
Mathieu...
Il n'y a plus son nom de...
J'ai plus son nom.
Mathieu Lencointre.
Oui.
Voilà. Et puis, donc, moi, j'ai eu la chance d'être votre coach sur cette aventure. Alors, justement, aujourd'hui, à quel stade vous êtes de la création de l'entreprise ?
Alors là, actuellement, on va rentrer dans une phase de prototypage afin de pouvoir intégrer cet engrais dans le support. Je vais être en collaboration avec une école d'ingénieurs spécialisée dans les biomatériaux et l'innovation des biomatériaux. Donc ça, c'est une super nouvelle pour le projet. Actuellement, moi, je suis en stage sur mon projet en recherche et méthodologie. Et donc là, je fais une étude de marché approfondie sur le consommateur tel que vous et moi.
Top, ouais, ça c'est génial. Alors Tiffaine Morillon, vous faites également partie du réseau Pépite. J'ai eu l'occasion au cours de cette saison d'avoir quelques personnes du réseau Pépite aussi à ce micro. Quel est le complément que ça vous apporte, Pépite, par rapport au programme Les Anthropes ?
Alors Pépite, ça va être un accompagnement qui va être continu. Les Anthropes, c'est sur 5 mois. Après, on se fait un réseau, mais ça s'arrête au bout de 5 mois. Pour le coup, Pépite, ça va être un accompagnement. Ça va être aussi des webinaires tout le long de l'année. Et aussi, ça va être un accompagnement dans le sens où si on a besoin d'une personne, d'un comptable ou d'une personne, un avocat, eh bien, on peut demander à Pépite de nous en fournir un et il nous mettra en contact avec des personnes associées au réseau.
Oui, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus long et, j'allais dire, plus poussé finalement dans l'accompagnement entrepreneurial. Oui. Alors, dans l'émission, j'aime bien dresser la carte d'identité, en gros, de l'entreprise ou du projet de mes invités. Donc, Tiffaine, je vais vous poser une série de questions courtes. Si vous ne connaissez pas la réponse hein, ou si vous ne souhaitez pas répondre, vous pouvez dire joker ou je passe, d'accord ?
Ok.
Est-ce que vous êtes prête ?
Je suis prête.
Ok. Alors, le nom de votre entreprise ?
S'implante.
Son année de création ?
Passe.
Combien êtes-vous ?
Un.
Ouais, une personne. Où êtes-vous situé ?
À Angers.
Angers. Est-ce que vous avez déjà un site
web ? Oui, c'est simplante.fr, en cours de création.
Ok. J'imagine que vous n'avez pas encore chiffre d'affaires ?
Non.
Non ? Ok, très bien. Merci pour cette carte d'identité.
Je note.
Les voix de l'écho. Une émission présentée par Yves Maguin.
Oui Hervé, je vous ai coupé la chic
non,
avec...
je note une note 9 sur 10, hein, c'est assez brillant.
C'est pas mal, effectivement. Alors, en plus d'être une jeune entrepreneur, Tiffaine Morillon, vous êtes également donc, étudiante. En quoi consistent exactement vos études d'ingénieur en horticulture et en paysage ?
Alors, le principe d'être ingénieur, c'est de trouver des solutions aux problèmes. Donc là, pour le coup, on est axé sur les enjeux environnementaux et les problématiques qui sont en lien avec l'avenir dans l'horticulture et le paysage. Donc, pour ma part, je suis en spécialité horticulture et puis je vais travailler sur... Alors, on est encore assez ouvert. On va faire de la génétique, on va faire travailler sur les enjeux territoriaux. Donc, c'est assez large. Et par la suite, en fait, on choisit des spécialités. Donc il y a des personnes, ils sont axés plus sur le commerce du vin, des personnes qui vont être axées plus sur la production elle-même, d'autres sur le commerce. Et donc on va choisir en fait nos spécialités par rapport à ça et travailler voilà, pour la ouais. filière en tant que personne qui donne des solutions.
Ouais, d'accord, ok. Alors j'aime bien lancer hein, dans le grand bain des personnes qui travaillent avec moi. Alors, j'ai demandé à ma stagiaire en première année d'audiovisuel à l'école Studio M, située à Beaucouzé, d'écrire une chronique. Elle a choisi le thème de la musique et des artistes locaux. C'est le moment d'écouter la toute première chronique de Manon Finlambu.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Bonjour à tous et bienvenue dans ma chronique musicale sur les ondes de Radio G. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'ébullition artistique qui anime notre belle ville d'Angers, Entre charme historique, patrimoine riche et scène culturelle dynamique, Angers regorge de talents musicaux variés et prometteurs. Accrochez-vous, car je vais vous présenter quatre artistes émergents qui méritent votre attention. Pour commencer, je vous présente Chahu, un artiste angevin au style singulier et mélancolique. Il est aujourd'hui dans ma playlist car à travers sa musique, il évoque le spleen de notre époque en créant son univers musical qui mêle pop, folk et rap. Accompagné de son fidèle ukulélé, Chahu nous transporte avec sa voix douce et amère à la fois. Voici le titre Possible sorti en 2022.
Manger la mer et boire le ciel, comprendre que rien n'est si beau. Partir à Tanger au soleil et faire brûler les oiseaux. Rester arrangé sous la grêle, endurer les moments de risque, les fouteurs de merde, tant tout est trop lumineux. Manger des sushis sans peine devant les soucis souris.
Maintenant, je vous propose de découvrir un groupe que j'ai moi-même découvert il y a quelques mois, avec leur titre La Nuit lors du Cinéma Sprint 2023. Ce groupe, c'est Joanne Joanne, un duo angevin repéré par l'équipe Espoir du Shabada d'Angers. Élise la chanteuse et Romain le compositeur ont donné naissance à Joanne Joanne pendant le confinement. Romain nous ensorcelle avec ses mélodies envoûtantes, tandis qu'Élise rythme la danse avec sa voix douce et entraînante. Découvrons ensemble le titre « Dis, quand reviendras-tu ?»
Déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois.
Maintenant, laissons place à Nerlove, un artiste angevin que j'affectionne tout particulièrement car il n'est pas du genre à mâcher ses mots. Véritable témoin de notre réalité, il nous offre des pensées brutes, sans artifice ni paillettes. Avec 15 ans de carrière, notamment en tant que bassiste et chanteur du groupe VDTT, Nerlove a su se forger une place, bien à lui, dans le paysage musical angevin. Voici son titre « Prophétie ». Pour conclure, c'est vers le rap que je me tourne. Effectivement, le rap angevin connaît une montée en puissance remarquable. Parmi ses rappeurs talentueux, Odor se démarque avec ses textes introspectifs et son flow mélodique. Ses paroles sincères reflètent son vécu et créent une connexion profonde avec ses auditeurs. Découvrons ensemble le titre Sam qui conclut son EP intitulé Ego. Chahu, Joanne Joanne, Nerlove ou bien encore Odor représentent une diversité musicale propre à Angers, reflétant la richesse créative de notre scène locale. Que vous soyez fan de pop, de rap ou d'autres genres musicaux, vous trouverez certainement des artistes qui correspondent à vos goûts dans notre ville animée. Et maintenant, chers invités, je me tourne vers vous pour savoir si vous connaissiez déjà ces artistes angevins ou si vous auriez d'autres pépites musicales d'Angers à nous présenter.
Alors Tiffaine Morillon.
Alors pour le coup, non.
Mince.
Non, pas trop de scènes musicales angevines dans la playlist.
Et non,
malheureusement. Et ben, nous voici maintenant, voilà, quatre nouveaux artistes qui vont être dans la nouvelle playlist de Tiffaine Morillon.
Les Voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alors en tout cas, je profite de cette chronique musicale réussie. Bravo Manon, vraiment.
Merci.
Pour vous rappeler que vous pouvez encore voter sur le site Radio G pour le concours de chant. Hop là, pardon, j'ai oublié de couper mon son. Pour le concours de chant Radiovision. Radiovision, donc c'est un concours qui est lancé avec plusieurs radios. Plus d'infos sur le site web de la radio, radio-g.fr pour voter pour vos artistes préféré. Alors, on va revenir à l'émission, bien sûr, Tiffaine Morillon. Quel est, ou en tout cas, qu'est-ce qui vous a donné la passion du végétal, dites-moi.
Alors, pour le coup, j'ai fait un lycée agricole. Au départ, je devais devenir vétérinaire.
Ah oui, rien à voir.
Rien à voir. Et puis, le stage de troisième m'a fait reculer d'un pas, pour le coup. Et je suis quand même arrivée dans mon lycée agricole. Et puis, on a eu des cours sur le végétal. Et ça m'a vite passionnée. Au départ, je voulais devenir fleuriste. Et puis, finalement... J'ai continué mes études et je me suis dit, je vais devenir fleuriste à l'international, donc devenir grossiste. Et j'ai toujours été assez passionnée aussi par le commerce. Et donc, finalement, j'ai allié ce que j'aimais, donc le commerce et le végétal. Et finalement, devenir commerciale dans le végétal, c'était ce que j'avais envie de faire. Et j'ai découvert l'entrepreneuriat entre-temps.
Ouais.
Ce qui fait que je me suis décalée vers l'entrepreneuriat pour, en fait, construire mon métier.
Ok, top. Alors, Tiphaine Morillon, il m'a semblé avoir lu dans votre CV que vous aviez fait un stage dans le monde du chocolat. Alors, est-ce que cette expérience en dehors du végétal vous a apporté quelque chose que vous arrivez à appliquer aujourd'hui ?
Alors, ce stage, c'était un stage de 5 semaines en lien avec mon bac, puisque j'ai fait un bac STASV en transformation des produits alimentaires. Et donc, le chocolat, c'était le Saint Graal pour notre promo. Et donc, au niveau du chocolat, aujourd'hui, avec le végétal, ça n'a pas forcément de lien. Mais je sais que de plus en plus, on commence à mettre des fleurs dans le chocolat. Donc, il y a déjà le chocolat à la violette qui est connu, mais aujourd'hui, on met d'autres petites fleurs comme les pétunias, la glycine, tout ça qui se mange. Et ça a un lien. Peut-être que je partirai ce domaine-là.
Qui sait Oui. Hervé, chez nous, vous confirmez
les
fleurs comestibles avec le chocolat. Tout ça.
Toutes les vertus du chocolat et... toutes les associations qu'on peut y faire, oui, c'est vrai.
Ouais, c'est top. Allez, il est temps de faire maintenant une courte pause en musique. Nous arrivons à la moitié de l'émission. Nous allons écouter le titre Queen of Them All du groupe Les Deluxe. Personnellement, je ne connaissais pas du tout. On reparle de ce choix musical avec mon invité Tiphaine Morillon juste après. Bonne écoute sur Radio G.
The boys, I'm the queen of them all. So look out now, I'm coming for you. The beasts are there, man, needs a hunger, needs a digging too. The boys, I'm the queen of them all.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Et oui, vous êtes toujours branchés sur Radio G à l'écoute de l'émission Les Voix de l'écho. Je suis en compagnie de mon invité Tiphaine Morillon, étudiante en horticulture et paysage, puis créatrice de l'entreprise Simplante, et toujours accompagnée en studio d'Hervé Chéneau et Manon Finlambu. Nous venons d'écouter Queen of Them All du groupe Les Deluxe. Tiphaine Morillon, pourquoi avoir choisi ce titre musical ? Ah, attendez, si je ne mets pas votre micro, ça ne va pas le faire. Allez-y.
Eh bien, c'est un petit groupe que j'ai découvert au Joker grâce à un ami. Et puis, j'ai entendu cette musique, gros coup de cœur. Et aujourd'hui, c'est ma musique motivation, celle qui me donne la pêche dès que je me lève et que je dois me motiver pour travailler, pour aller faire une présentation ou autre. C'est The Music.
Ouais, on a tous un peu ces musiques qui nous donnent la patate. Hein. Moi, j'aime bien écouter Happy de Colin Farrell, par exemple, ou même les Daft Punk. Je trouve que ça donne vraiment la pêche. Je souhaite maintenant vous poser des questions un peu plus personnelles sur votre quotidien, vos études et votre futur métier, d'ailleurs, hein, Tiphaine Morillon. Première question, quels éco-gestes vous mettez en place au quotidien pour être un éco-responsable ?
Alors pour le coup, je suis à cheval sur le tri. Le tri, c'est vraiment ce que je fais le plus et chaque semaine, j'ai au moins 2-3 poubelles de tri qui sortent. Après, je marche beaucoup, j'utilise très peu la voiture, sauf en cas de réel besoin. Mais sinon, c'est plusieurs kilomètres à pied et même ça fait du bien et c'est bon pour la santé de marcher. Donc,
carrément.
Voilà, c'est important. Et après, au quotidien, je trie, je marche. Et aussi à mon école, parfois, il y a des activités comme par exemple aller récupérer les déchets dans la rue ou par exemple aller faire des activités de sensibilisation qui est aussi un éco-geste en soi, de sensibiliser
bien
les
évidemment.
Autres. Donc voilà, c'est au quotidien des petits gestes.
Ok. Est-ce que vous avez un projet horticole ou paysager sur lequel vous avez travaillé dans vos études, vous êtes particulièrement fière, Tiphaine Morillon ?
Alors, j'ai fait plusieurs projets. Par exemple, ma première année en école d'ingénieur, je faisais partie d'une association qui s'appelle VG Projet, qui est notre junior entreprise à l'école. Et puis, on avait commencé à faire la conception d'un jardin pour une maison de retraite. Et je me rappelle, les personnes âgées étaient très contentes qu'on puisse participer à ça. Et on avait eu de très bons retours. Donc ça, c'est un très bon souvenir.
Et donc à Gros Campus, hein, c'est là où vous êtes. Vous avez fait aussi l'Expo Flow ou pas du tout ?
Alors oui, j'ai participé à l'Expo Flow. J'étais au niveau de les relations extérieures. Donc on récupérait des personnes pour faire des conférences. On proposait à des personnes connues.
D'accord.
Et puis après, on participe un peu entre nous, selon les secteurs. Je faisais aussi le Grand Hall. Donc c'est l'entrée de l'école où là, toutes les personnes arrivent. Et donc, on avait fait des structures. Okay. Ça prend du temps.
Ah j'imagine bien. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas Expo Flow, je ne sais plus si c'est la prochaine séquence. C'est tous les 2 ans, il me semble.
Oui, c'est tous les 2 ans, donc c'est l'année prochaine.
Oui, c'est ça.
C'était l'année dernière.
Oui, voilà. Avec le Covid, je ne sais plus du tout où on en est. Donc l'année prochaine, effectivement, j'invite tout le monde à y aller. Hein. C'est vraiment super chouette. Quels sont les aspects les plus passionnants que dans votre programme d'études, justement, en ingénierie horticole et paysagère ? C'est quoi que vous préféré comme matière, on va dire.
Alors, pour le coup, quand on rentre en master, en fait, on a à chaque fois des projets différents. Et étonnamment, contrairement aux 3 premières années qui sont très sciences dures, où là, on apprend vraiment les matières un peu de l'ingénierie qui peuvent être un peu moins drôles en termes de mathématiques et de physique. En master, en fait, on va se passionner un peu pour nos projets puisque c'est souvent un article à étudier, c'est souvent des personnes à aller visiter pour en fait monter un oral derrière et on va toujours avoir ce petit truc qui va nous prendre, on va se prendre au jeu et on va faire le projet avec plus de passion que de réviser simplement des mathématiques. Mais pour le coup, un projet que j'avais bien aimé, c'était les 8 semaines en entrepreneuriat où il fallait avoir une idée et puis monter son projet quasiment tout seul, en liberté, en groupe de 8, si je me rappelle bien. Et j'avais beaucoup aimé faire ça et surtout donner un peu les tips à mes collègues qui n'étaient pas forcément dans l'entrepreneuriat puisque ce n'est pas quelque chose qu'on met énormément en avant à l'école. Donc ça, pour le coup, c'est une des matières où je me suis le plus investie.
Le plus investie et amusée, en tout cas. C'est important de s'amuser quand on travaille, que ce soit dans les études ou même dans la vie de tous les jours. En tout cas, moi, c'est mon leitmotiv. Alors, à chaque émission, je brosse aussi le portrait de mon invité hein, à travers quelques questions courtes. Vous allez voir, Tiphaine, comme j'ai pu le faire tout à l'heure avec l'entreprise. Vous pouvez aussi dire joker ou je passe hein, si la question vous dérange. Est-ce que vous êtes prête ?
C'est parti.
Allez. Quelle est votre série préférée ? C'est dur comme question.
Murder.
Ok. Votre couleur préférée?
Le rouge.
Votre sport préféré?
L'équitation.
Votre ville préférée?
Toulouse.
Vous êtes toulousaine, non?
Oui.
Ah oui, c'est bien ce qui m'a... Quand j'ai regardé votre CV, c'est bien ce que j'avais vu. Votre dernier lieu de vacances?
En Normandie, okay. Près de Dieppe.
Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo?
Oui.
Desquels, par exemple?
Assassin's Creed. Ouais.
Ah ouais, non, c'est pas courant. Pourquoi vous levez-vous le matin?
Pour faire ma passion, l'entrepreneuriat.
Ouais, top, j'adore. Merci à Tiffaine pour ces petites réponses.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alors tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que la cible, entre guillemets, clientèle par rapport à Saint-Plante, c'était monsieur et madame tout le monde. Mais est-ce que vous pouvez un peu plus préciser vraiment la cible? Parce que c'est les grossistes, c'est vraiment le client final. C'est un peu... Est-ce que vous pouvez préciser un peu plus?
Alors pour le coup, le conditionnement est vendu aux grossistes. Donc l'étiquette en soi sera vendue aux grossistes. Ces grossistes les vendront en jardinerie et c'est le client final qui le trouvera dans les lieux de vente tels que les jardineries, les fleuristes. Donc pour le coup, il faut qu'on arrive à attirer... À donner l'envie d'acheter à chaque acteur de la filière. C'est un peu le challenge pour Saint-Plante. Mais pour le coup, oui, notre clientèle première, c'est les grossistes. Et notre consommateur, notre cible finale, c'est les clients de jardinerie, de fleuristerie. Tout ça.
Et alors du coup, je ne sais pas s'ils existent, mais comment vous allez pouvoir vous démarquer par rapport aux autres entreprises du secteur qui peuvent proposer des choses à peu près similaires? Par exemple, Tiffaine.
Alors, pour le coup, notre étiquette est biodégradable en compost maison, c'est-à-dire que vous pouvez la mettre dans votre compost ou dans votre terre et l'étiquette sera biodégradable et en un an, elle aura totalement disparu. Ici, chez la concurrence, les étiquettes dites biodégradables le sont, mais en compost industriel, c'est-à-dire qu'il faut quand même la jeter à la poubelle du recyclage. Et en plus de cela, nous voulons proposer une application déjà pour garder les informations de l'étiquette, parce que c'est toujours intéressant de retrouver ces informations là, mais aussi on veut accompagner le jardinier dans ses cultures et donc créer une application avec un calendrier de culture et d'arrosage qui permettrait de dire quand arroser, quand planter selon la météo actuelle, parce qu'aujourd'hui on sait qu'on a énormément de problèmes en lien avec l'eau et les pénuries d'eau,
oui,
notamment en été. Et donc le but, ça serait d'adapter ces consignes là sur l'utilisation de l'eau et en plus d'avoir un beau jardin malgré tout.
Ah ouais, ça c'est vraiment hyper, hyper chouette. Et comment vous comptez, on va dire, collaborer aussi avec les acteurs de l'industrie horticole pour les aider à les sensibiliser à la réduction des déchets? Peut-être que c'est déjà quelque chose qui... Bon, en tout cas, un sujet qui est pris à bras-le-corps. Mais est-ce que vous avez des idées pour aider vos confrères en plus que l'étiquette biodégradable ou pas encore?
Alors si pour le coup, l'idée ça serait déjà de faire des étiquettes qui soient biodégradables, qui diffusent de l'engrais et aussi de proposer d'autres aspects comme par exemple protéger les plantes ou attirer certains insectes intéressants comme les coccinelles par exemple. Mais aussi pour l'horticulteur, ça serait intéressant de trouver un pot qui soit tout aussi résistant que le pot plastique, tout aussi mécanisable aussi, parce qu'aujourd'hui c'est très important en horticulture que ça soit pratique à mettre en place. Donc ça peut être des pots, ça peut être des bâches, des filets. Enfin, on pourra faire grandir la gamme tout en étant respectueux de l'environnement et durable.
Et parce qu'aujourd'hui il existe quand même des pots en bioplastique, non?
Alors oui, il existe des pots en bioplastique aujourd'hui parce que malheureusement, c'est encore très cher. Il existe aussi les pots biodégradables, là, qui, pour le coup, sont vraiment en terre. Mais c'est très peu connu par la clientèle et très peu pratique pour la personne en jardinerie et au consommateur, car ça se déchire très facilement. Ce
D'accord.
sont en fait des pots en fibre de bois. Mais dès qu'il y a du contact avec l'eau, ça se déchire, ça s'écrase. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu apprécié pour les salariés de jardinerie.
Ouais, c'est sûr que ça ne doit pas être évident. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de Saint-Plante dans les mois là, et les années à venir, Tiffaine Morillon?
Eh bien, j'aimerais que ça évolue positivement. Tout d'abord, l'idée, c'est de commencer la production en décembre 2024, donc quelques mois après la fin de mes études, pour le coup. Donc, tant que je suis en études, j'évolue, je fais marcher, vivre le projet. Et puis après, essayer de monter la boîte, d'avoir un statut juridique. Et puis, dans les années à venir, j'espère essayer de faire adopter l'idée, adopter l'étiquette fertilisante, finalement. Et puis, au bout de 5 ans, possiblement, pourquoi pas aller à l'extérieur des frontières françaises, aller vendre l'idée, le brevet aussi, parce que on peut parler aussi de brevet à un certain stade. Et puis, après un certain niveau, refaire de nouveaux produits et évoluer comme ça, en fait, de faire évoluer les innovations, de proposer de nouvelles choses à chaque fois.
Ouais, j'imagine que vous êtes un peu à la recherche aussi peut-être d'investisseurs actuellement, ou c'est pas le moment ?
C'est encore un petit peu tôt, mais oui, c'est déjà pensé, parce qu'on doit créer des prévisionnels financiers pour pouvoir faire des concours ou aussi en parler facilement. Donc, j'ai déjà 2 personnes qui se sont proposées, mais effectivement, il faudra plus que ça.
Oui, c'est clair. Alors, nous ne sommes pas en avril, mais nous allons pourtant parler poisson. Et oui, dès à présent. C'est un aliment intéressant pour l'organisme. Hein. Il se digère aisément. C'est source de protéines et de fer. Mais comment savoir s'il est frais ou non ? C'est le moment de plonger avec le chef Hervé Chéneau.
De la fourche à la fourchette. Une chronique du chef Hervé Chéneau.
Il est tout frais, mon poisson ! Il est tout frais!
Ça sent le poisson d'en face. Le poisson pas frais. Voilà ce que ça sent.
Viens me le dire ici qu'il est pas frais!
Ben oui, je viens. Ne me gênez.
Et mon poisson, il est frais, lui, il est frais!
Eh bien, le poisson frais a une durée de conservation courte. C'est pourquoi il est important de pouvoir contrôler sa fraîcheur. Après la pêche du poisson, les enzymes digestives continuent de travailler et les bactéries commencent à détériorer la chair. Comme chez les poissons, les bactéries se développent à basse température et les graisses insaturées rancissent plus vite que chez les autres animaux. Le poisson doit idéalement être consommé dans la semaine qui suit sa pêche. Servez-vous des indications suivantes pour vous aider à identifier le poisson le plus frais. Attention Yves! La peau et les écailles sur un poisson frais, elles sont brillantes avec un reflet métallisé, mais jamais ternes. Il ne doit jamais y avoir d'écailles manquantes ou cassées. L'odeur, une odeur fraîche et légèrement iodée, est idéale. Vous sentez déjà la mer et les abords, Yves ?
Non, pas vraiment.
Ouais, donc, je fais des efforts pourtant. Évitez les poissons à l'odeur un peu forte ou ammoniaquée. Les yeux, alors là, les yeux, Yves. Optez pour un poisson avec des yeux globuleux, brillants et lumineux. N'achetez pas les poissons aux yeux laiteux et enfoncés comme vous quand vous sortez de boîte, Yves. Voilà, ça c'est fait. Toucher. Le poisson le plus frais a une consistance ferme et souple au toucher, plutôt qu'élastique, molle et spongieuse. Autre question, pourquoi le poisson est-il la nourriture du cerveau ? Les nutriments du poisson alimentent la croissance rapide de notre cerveau. Le poisson est riche en iode et en fer, des minéraux essentiels au développement d'un cerveau sain pendant l'enfance. En outre, les matières grasses des poissons contiennent des oméga-3 essentiels. Ces derniers sont des composants des gaines entourant nos cellules nerveuses et leur permettent de fonctionner correctement. Le poisson gras, saumon, anchois, sardines, maquereaux, truites et thon sont les plus chargés en acides gras oméga-3 fortifiants. La façon de préparer et de cuire le poisson peut affecter sa teneur en acides gras essentiels. Mon cher Yves, j'ai pour vous une recette qui va vraiment certainement vous intéresser. Comment se passe-t-il quand on cuit un poisson en croûte de sel ?
Il durcit ?
Eh bien, pas du tout. Non, non, c'est une ancienne méthode de cuisson. Elle est plus simple qu'il n'y paraît. De toute façon, de cuire le poisson, le recouvrir de sel avant la cuisson est sans doute celle qui semble la plus extravagante. Un poisson entier, comme un bar, une dorade ou un saumon, est assaisonné avant d'être enfermé dans du sel humidifié avec du blanc d'œuf, puis cuit au four. La croûte salée et dorée est ensuite cassée pour révéler un poisson parfaitement cuit. On ne mangera pas, bien sûr, cette croûte de sel, Yves, on est bien d'accord. Comment cela fonctionne-t-il ? La croûte de sel agit comme un couvercle, empêchant l'eau de s'échapper. Le poisson cuit dans sa propre vapeur plutôt que dans l'air chaud et sec du four. Les protéines du blanc d'œuf durcissent en cuisant, ce qui aide le sel à former une carapace autour du poisson pendant qu'il cuit. Le sel ne pénètre pas la chair. Le poisson n'est donc pas salé, c'est-à-dire qu'on garde les écailles sur le poisson pour éviter que le sel pénètre à l'intérieur du poisson. 200 degrés, c'est la température optimum pour cuire un poisson en croûte de sel. Les traces les plus anciennes de cuisson en croûte de sel ont été trouvées en Tunisie au 5e siècle avant Jésus-Christ. Je vous donnerai un petit conseil, Yves, pour terminer. Sortir le poisson du frigo avant de le mettre sous le sel pour qu'il soit à température ambiante et dégagera moins d'eau pendant la cuisson. Tiffaine, une question piégeante. Avez-vous déjà mangé un poisson en croûte de sel ?
Pas du tout.
Ah, ben ça, c'est. Alors, il faut le faire avec urgence.
Eh oui.
Parce que quand
vous... ce soir.
Voilà. Vous casserez la croûte et je vous assure, vous êtes vraiment en bord de mer. Si votre poisson est très frais, c'est absolument délicieux. Vous le mangez comme ça, avec un très bon beurre déchiré ou d'autres beurres avec de la fleur de sel, tout simplement. Et un jus de citron.
Très bon conseil. C'est parti.
Eh bien, c'est parti. On va tous faire du bar en croûte de sel.
Les Voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alors, Tiffaine Mourillon, comment faites-vous pour concilier trois vies en une ? Votre vie étudiante, votre vie entrepreneuriale et votre vie perso ? Ça va vous prendre beaucoup de temps, non ?
Eh bien, effectivement, les journées ne sont pas sans repos. Pour le coup, quand il y a cours et entrepreneuriat à gérer, dont notamment les entrepes, il faut associer. Par exemple, jeudi après-midi, chez nous, c'est pour les associations, c'est pour les activités. Donc moi, j'en profitais pour travailler avec mon groupe. Et parfois, des fois, il y a des cours. Et le statut étudiant-entrepreneur permet parfois de sécher les cours, oui, soyons honnêtes, pour aller par exemple à des rendez-vous avec un futur client, notamment pour mon étude de marché entre janvier et février. J'ai raté quelques cours pour aller voir des grossistes et leur poser des questions. Donc déjà, cette partie-là est un peu gérée comme ça. On fait avec les moyens du bord. Et au niveau de la vie étudiante, on se fait pas mal d'amis, notamment dans l'entrepreneuriat. Donc en fait, les soirées, c'est souvent aujourd'hui entre entrepreneurs. Et notamment ce week-end, on a fait un week-end à 14 entrepreneurs. Donc ça envoie du pâté.
J'imagine bien. Est-ce que vous avez des rôles modèles qui vous inspirent, Tiffaine Mourillon, aujourd'hui ?
Eh bien, pour le coup, j'ai toujours eu une femme qui m'a énormément inspirée, c'est Emma Watson. Donc, elle est très féministe et elle joue énormément de rôles au sein de l'ONU, notamment. Et la première fois que je l'ai vue, c'était dans Harry Potter, mais au fur et à mesure, je me suis intéressée à la personne telle qu'elle. Donc, si j'ai une image modèle, ça serait elle.
D'accord. Et alors, quelles sont les choses que vous aimez et que vous détestez le plus dans l'entrepreneuriat ?
Alors, j'aime beaucoup la partie commerciale. Le fait, par exemple, d'aller pitcher, pour moi, c'est un vrai jeu. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup présenter le projet et échanger avec aussi d'autres personnes sur leur projet. On apprend énormément en se faisant du réseau. Et après, ce que j'aime un peu le moins, c'est peut-être toute la partie écrite, administrative, où là, ça peut prendre de nombreuses heures, notamment quand on ne s'y connaît pas forcément. Là, la partie financière, par exemple, ça fait 3 jours que je suis dessus pour remettre les choses un peu en place. Et des fois, on n'en peut plus.
je partage votre avis, Tiffaine. Moi aussi, l'administratif, j'ai horreur de ça.
Oui, c'est quand on est entrepreneur, hein, c'est pour ça qu'on fait appel à des professionnels qui sont spécialisés dans l'administratif, dans les finances et autres quand on entreprend. J'imagine que vous avez pris contact peut-être avec l'INRA ou le CNRS pour votre projet d'entreprise. Si oui, comment comptez-vous faire pour les intégrer dans votre projet éventuellement ?
Alors, j'ai pas eu de vrai contact encore avec eux puisque le projet est encore assez jeune. Et j'ai préféré faire participer d'autres étudiants en fait à ce projet-là, notamment avec la collaboration en septembre. J'ai discuté avec une personne qui travaille à l'INRA, qui m'a été conseillée par un réseau pour le coup. Je pense que quand il faudra faire participer des chercheurs dans ce domaine-là, on fera une collaboration pareille. Et effectivement, en fait, ça m'aidera énormément pour le brevet, je pense, où là, ces personnes-là seront sur le brevet et on partagera les parts comme ça. autour de ce brevet-là, puisque j'ai besoin de chercheurs et de connaisseurs dans le domaine, en fait.
Parce c'est sûr, sur un projet d'innovation comme le vôtre, c'est important. Alors, votre projet d'entreprise est au cœur vraiment des problèmes environnementaux, hein, avec la réduction donc, des déchets plastiques, mais également avec la croissance des plantes, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que dans votre business model, vous avez tenu compte de l'empreinte carbone que pouvait générer votre entreprise?
Alors oui, on a pris ça en considération, notamment en réduisant drastiquement les transports. On prévoit en fait de créer nous-mêmes le fameux support innovant et de faire l'impression sur place, parce qu'aujourd'hui, de nombreux concurrents sont en fait des entreprises de design et vont envoyer le design à des imprimeurs quelque part en Europe et puis ils vont les faire ramener chez le grossiste. Ici, on veut tout faire, c'est-à-dire créer le support, avoir des designers dans notre entreprise et faire un pack pour notre client.
Et selon vous, Tiffaine Morillon, quels sont les défis les plus courants auxquels les professionnels de l'horticulture et du paysage sont confrontés aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, il y a une énorme question sur l'eau, que ce soit en paysage ou en horticulture. L'eau manque énormément et aujourd'hui, les nappes phréatiques souffrent énormément. Par exemple, rien qu'en février, on était déjà en dessous du seuil acceptable parce qu'il y a très peu plu en février et ça inquiétait un peu les personnes du domaine. Donc, je dirais que c'est l'eau le plus important. Après, y a toujours une histoire de déchets. Aussi de capacité de production. Parce qu'aujourd'hui, on demande aux petits producteurs de produire énormément et ils n'en sont pas forcément capables et ils se font marcher dessus par exemple, les tomates d'Espagne ou les fraises d'Espagne ou en fait des productions d'autres pays, alors que les petits producteurs pourraient être mis en avant et ça serait même meilleur pour nous, hein, parce qu'une tomate qui vient de l'Anjou, c'est meilleur qu'une tomate qui vient de l'Espagne et qui a été cueillie beaucoup trop tôt, quoi.
Ouais, revenir vraiment au local. Oui. On a eu la chance d'avoir notamment votre neveu, Hervé Chino, qui est venu nous parler un peu de tout ça. Et c'est vrai que c'est ultra, ultra important et c'est un enjeu majeur, hein, dans tout ce qui est environnemental aujourd'hui. Est-ce que vous avez identifié en tant qu'entrepreneur dans vos études des avantages, des opportunités par rapport justement à ce développement d'entreprise? Je ne sais pas si c'est très clair au niveau de ma question, mais quels avantages et des opportunités vous avez pu identifier finalement en tant qu'entrepreneur étudiante dans les différents programmes que vous avez pu faire, en fait? C'est surtout là où je veux en venir.
Donc, plutôt par rapport au projet, comment j'ai vu les opportunités pour le projet?
Tout à fait.
Pour le coup, déjà, les Français aiment beaucoup jardiner, ce qui fait que pendant le Covid, il y a eu un pic de jardinage énorme, mais aussi on s'est rendu compte que les Français ne sont pas très bons jardiniers, malheureusement, et que donc il y a beaucoup de catastrophes durant l'été. Donc ça, déjà, c'était un point important, et encore aujourd'hui, en fait, par rapport... Avant le Covid, il y a beaucoup plus de gens qui jardinent, qui aiment ça. Et après, en lien avec l'inflation, le fait qu'aujourd'hui, on paye son concombre 30 centimes de plus par rapport à quelques années, ça embête certains. Et donc, ils veulent commencer à autoproduire, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc, pour le coup, l'étiquette peut vraiment aider à ça.
Et oui, tout à fait. Alors... L'émission des Voix de l'écho, ça y est, touche à sa fin. Et oui, ça passe vite, hein, 50 minutes quand on est occupé. Merci beaucoup, Tiffaine Morillon, d'être venue nous parler d'horticulture et de Simplante. Merci Hervé Chéneau et Manon Filambu pour vos chroniques. Merci aux étudiants de l'UCO qui m'ont aidé dans la communication de l'émission sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn et Instagram, une aide qui se termine aujourd'hui. Merci à Soline et Emma tout particulièrement, puis Calvin, Lan-Anne, Mathéo et Louis qui ont pu donner aussi un petit peu de leur temps à un moment donné. Et plus largement, merci à toutes les personnes qui m'ont permis de préparer ce magazine des entrepreneurs de l'Anjou. Vous pouvez écouter le replay de cette émission sur le site radio-g.fr ou via le site studiogreen.fr. Chers auditeurs, auditrices, on se retrouve le 14 juin sur le 101.5 FM. On parlera de produits écologiques pour la salle de bain. Et d'ici là, prenez soin de vous et merci d'avoir choisi d'écouter Radio G.